Aujourd'hui, un enfant est victime de violences sexuelles toutes les 3 minutes. Ça se passe en France en 2026. 3 ans plus tôt, une commission indépendante, la CIVISE, rendait son rapport « On vous croit » avec 82 recommandations pour lutter contre la pédocriminalité. Depuis, plusieurs affaires de libération de la parole ont fait la une des médias. Betaram, le Squarneck, les scandales liés aux périscolaires et dernièrement, la mort de Liana. Mais alors, que doivent faire les politiques? J'en discute dans la deuxième partie de cet épisode avec mon invité, le secrétaire général de la CIVISE, Denis Roth-Fichet. Il vient de rendre un nouveau rapport qui évalue la mise en œuvre des 82 propositions initiales. Taux de réussite, 28%, plus une bonne moitié de mesures appliquées partiellement. Mais vous allez l'entendre, même lorsque ces idées sont mises en œuvre, rien ne dit qu'elles sont vraiment suivies des faits. Je suis Zachary Legros, vous écoutez Le Titre à la Une, le podcast d'actualité de BFM. Bienvenue.
Chaque année, 160 000 enfants dans notre pays.
Édouard Durand, en 2023, il est alors le président de la CIVISE.
Sont victimes de violences sexuelles. Nous devons les trouver pour les protéger.
On va beaucoup entendre ce terme de CIVISE. Il s'agit de la commission indépendante sur l'inceste et les violences sexuelles faites aux enfants. En 2023, cette commission rend un rapport fleuve, 730 pages, qui s'appuie sur 30 000 témoignages. Et à la fin, il y a 82 propositions pour lutter contre la pédocriminalité.
La CIVISE a considéré que 1.
En tête des demandes, déclarer imprescriptibles les viols et les agressions sexuelles commis contre les enfants.
Que l'on devait opposer aux victimes de viols et d'agressions sexuelles dans l'enfance le temps qui passe.
La CIVISE met en avant d'autres propositions prioritaires.
Le repérage par questionnement systématique. Les professionnels doivent permettre à l'enfant de révéler les violences en lui inspirant confiance et en lui posant la question.
Les professionnels doivent être soutenus et assurés de ne pas faire l'objet de poursuites disciplinaires s'ils signalent leurs soupçons.
Ajouter le cousin ou la cousine dans la définition de l'inceste.
Déclarer imprescriptibles les viols et agressions sexuelles contre les enfants.
Garantir un parcours de soins spécialisé du psychotraumatisme aux victimes.
Mettre en œuvre à l'école des séances d'éducation à la vie sexuelle et affective.
À l'origine de cette commission, il y a un témoignage, un livre paru en janvier 2021.
Aujourd'hui imprimé à plus de 300 000 exemplaires, La Familia Grande de Camille Kouchner est le succès littéraire de ce début d'année. Sylvie est venue acheter le sien.
C'est un livre, je pense, important, étonné le sujet. Voilà, c'est un sujet qui est en train d'exploser.
Dans La Familia Grande, Camille Kouchner révèle l'inceste subi par son frère jumeau. Elle accuse son ancien beau-père, le politologue Olivier Duhamel.
Le réel, là, la réalité, c'est très difficile parce que c'est mon beau-père. Voilà. Et c'est ça l'inceste, en fait. C'est que même au bout du bout, c'est difficile. Après, il a fait un truc qui est impardonnable. Impardonnable. C'est ma réalité depuis des années, la réalité de mes frères et sœurs, la réalité de mes cousins, la réalité de ma tante, etc. Et lui, depuis un moment, vit hors de cette réalité. Ça a l'air d'aller très bien, etc. Je trouve ça injuste.
Devant la police, Olivier Duhamel reconnaît les faits d'inceste sur son beau-fils. Mais l'enquête est classée sans suite, les faits étant prescrits. Toutefois, les révélations de Camille Kouchner ouvrent la voie à une libération de la parole. En 2025, Hélène Perland, la fille de François Bayrou, alors Premier ministre, révèle des violences subies dans l'établissement catholique de Betaram, près de Pau.
Quand j'arrive dans Betaram, ça pue la pédocriminalité. Toutes les phrases, les regards, les prêtres qui sont bizarres, qui ne parlent que de masturbation toute la journée, qui sont là à rôder, à regarder les garçons.
Les prêtres, devant les élèves, parlent de masturbation.
Devant et aux élèves, ça ne parle que de ça. C'est malsain. Des phrases désinhibées, des gestes inappropriés, tout ça à côté d'une espèce de fausse discipline. Je raconte dans ce livre comment, parce qu'ils me montrent, parce qu'ils me font venir dans leur chambre, qu'ils le font au vu et au su de tout le monde, porte fermée, je me dis non, c'est trop gros. S'il faisait quelque chose, il se cacherait.
Hélène Perlan raconte avoir subi des violences, mais en plus d'elle, des dizaines d'anciens élèves déposent des plaintes pour des faits de viol, d'agression sexuelle ou de violence qui se seraient déroulés des années 70 aux années 90. L'évêque de Bayonne, Mgr Marc Allais, prend alors la parole. Il exprime sa honte et sa solidarité aux victimes.
Vous avez du sang sur les mains !
Une conférence de presse interrompue par un ancien membre de la Civise, Arnaud Gallet. Pour lui, le clergé est hypocrite, responsable d'avoir su et d'avoir couvert les violences.
Et la réparation ne changera rien. Et encore une fois, vous n'avez même pas ouvert vos archives. Que disent vos archives ? C'est un scandale. Rien n'est fait. Vous êtes au-dessus des lois.
On le sait, en fait, tous les établissements, et c'est pour ça que de l'entendre encore aujourd'hui lors d'une conférence de presse, mais ce sont des gens qui n'ont pas honte, et surtout, ce sont des gens qui sont en toute puissance et qui vivent dans l'impunité.
J'ai parlé de libération de la parole tout à l'heure, mais il s'agit en fait de la libération de la parole d'enfants victimes devenus adultes. Or, et c'est ce que souligne Arnaud Gallet, tout l'enjeu est de croire les victimes dans leur jeune âge.
Puis vous savez, les enfants quand même disent des choses assez simples. Je suis désolé, je vais être cru hein, sur l'antenne, je le dis avant. On a des enfants de l'âge de 2-3 ans. Moi, ça m'est arrivé avec une enfant de 2 ans. J'étais directeur général d'une association dans la protection de l'enfance. Une enfant de 2 ans qui vous dit « Papa ou tonton, pardon, c'était à l'époque, il m'a mis le doigt dans la zézette ». Bon, bah, si ça, c'est pas explicite, je pense que ça l'est. Les enfants disent des choses. Par contre, des fois, il y a des choses qu'on ne veut pas entendre. Ça, c'est autre chose. Mais je peux vous dire que les enfants parlent et nous ne sommes pas capables de les protéger. C'est ce qu'ont démontré les 33 000 personnes qui ont témoigné, qui nous ont fait confiance au niveau de la commission indépendante sur l'inceste et les violences sexuelles faites aux enfants.
Ce constat, Arnaud Gallet le dresse en plein scandale du périscolaire. Depuis le début de l'année 2026, 152 animateurs ont été suspendus à Paris, dont 52 pour des violences sexuelles. Une centaine d'écoles sont concernées, mais cela existe aussi dans d'autres villes. Fin mai, un premier procès s'ouvre, celui de David G., animateur accusé d'agression sexuelle sur des enfants d'une école maternelle du 11e arrondissement de Paris. Cela débute par la plainte de deux familles qui poussent les autres parents à interroger leurs propres enfants.
Elle m'a dit oui, je l'aime beaucoup. J'ai dit mais pourquoi ? Je comprends pas pourquoi tu l'aimes beaucoup. Et donc c'est là qu'elle m'a dit bah, parce que il me fait ceci, il me fait cela. Et donc j'ai compris que c'était très grave. J'étais sous le choc, quoi.
Toutefois, une première alerte avait été faite sans être prise en compte.
Et ce qui est hyper grave, c'est qu'il y avait déjà eu un signalement en septembre. Elle va toujours pas bien et c'est vrai qu'ils sont quand même plusieurs à dire la même chose. Moi, je veux juste que ce mec-là, il soit derrière les barreaux et que ça n'arrive plus, en fait.
Nous vous proposons d'ailleurs une série de podcasts sur le sujet. Elle s'intitule « Périscolaire, nos enfants en danger ». Mais ces affaires peuvent-elles vraiment faire bouger les choses ?
Il est jugé pour des faits qu'il a commis entre 1989 et 2014.
En mai 2025, l'ancien chirurgien Joël Lescornec est condamné pour des viols et des agressions sexuelles sur près de 300 victimes, essentiellement de jeunes patients, pour la plupart mineurs. L'homme écope de 20 ans de réclusion. C'est la peine maximale. La justice a fait son œuvre, mais les politiques, rien, malgré la forte médiatisation du procès. C'est le regret de Solène Potvin-Favre. Elle est la co-directrice de la Civise. Elle préside l'association Face à l'inceste.
C'est une peine maximale, certes, mais sans rétention de sûreté. Donc libérable aux deux tiers. Ça veut dire que dans 6 ans, il est potentiellement libérable. Je crois que la nouvelle a été reçue avec beaucoup de stupeur. Le gouvernement est passé complètement à côté du procès. Il aurait pu s'emparer de ce procès pour annoncer des améliorations dans la protection de l'enfance et ça n'a pas été le cas.
Et puis dernièrement, il y a eu la mort de Liana, 11 ans. Le corps de la fillette a été retrouvé le 4 juin dans le Gers. Le suspect avait été signalé plusieurs fois pour des affaires de violences sexuelles et de viols impliquant des enfants. Aujourd'hui, une proposition de loi transpartisane regroupe la plupart des recommandations de la Civise et des associations. La création d'unités de police et de juridictions spécialisées dans les violences sexuelles, la formation des magistrats ou encore un socle obligatoire d'actes d'enquête pour limiter ces fameux classements sans suite. Bonjour Denis Rodefichet.
Bonjour.
Vous êtes le secrétaire général de la Civise et vous venez de rendre un rapport sur la mise en œuvre de vos précédentes recommandations, les 82 préconisations du rapport de 2023. Comment le gouvernement les a-t-il appliquées ? L'ont-elles d'ailleurs été ? Vous allez nous dire ça, mais on a entendu les différentes affaires qui ont éclaté depuis le lancement de la Civise en 2021. De quoi est-ce qu'une victime peut bénéficier aujourd'hui qui n'existait pas il y a 5 ans ?
C'est extrêmement difficile de dire quels sont les éléments qui ont pu être pris en compte, hein, sachant que, comme je vous le rappellerai tout à l'heure, peu d'éléments de la CIVISE, en tout cas peu de recommandations que nous avons faites ont été prises, hein, puisqu'on est aujourd'hui à 23 recommandations sur 82. Donc assez peu de recommandations. Alors en revanche, on est systématiquement ou assez régulièrement auditionné. J'étais tout récemment auditionné sur l'affaire Le Squarneck, qui permet quand même de prendre en compte un certain nombre d'éléments sur l'affaire.
Mais il n'y a pas eu d'avancée. Une victime de 2021 et une victime de 2026 est traitée de la même manière par les institutions, par la justice,
non,
par les professionnels.
Alors, bonne remarque. Fort heureusement, non. Il y a un certain nombre de progrès, hein, et on l'a souligné.
Alors
notamment,
lesquels ?
En matière de formation, même s'il y a encore de grosses marges d'amélioration en matière de formation, donc par exemple des enquêteurs. Un travail qui a été fait, qui est sans doute encore insuffisant sur l'écoute de l'enfant.
Donc c'est la prévention et le repérage, ce sont les principales avancées
oui,
de ces dernières
effectivement.
Années. Ça se traduit comment sur les mesures concrètement ?
Le protocole NICHE, qui est un protocole qui n'est pas invasif pour l'enfant, qui évite par ailleurs que l'enfant répète. Et c'est ça quand même qui est particulièrement traumatisant et peut faire changer l'enfant de discours. Hein. Donc voilà, un protocole qui est mis en place auprès des forces de l'ordre, mais aussi un certain nombre de structures qui ont été mises en place, qu'on appelle les salles Mélanie, qui sont des salles accueillantes, du coup, qui permettent de libérer beaucoup mieux la parole de l'enfant, le mettre dans des contextes, mais aussi les UAPED, donc des unités d'accueil des enfants. Ou par exemple, ce qui fonctionne de façon assez plutôt bien, les chiens d'assistance. Lors d'une audition d'un enfant, vous avez un chien qui est à côté et qui va faire tomber la pression chez l'enfant.
Pourquoi est-ce que sont ces mesures de prévention, de repérage qui ont été pour l'essentiel mises en œuvre ? C'est parce que c'est le moins cher, c'est le plus simple, c'est le plus acceptable ?
Je ne sais pas si c'est un problème de coût ou peut-être plutôt de ministère. Tout dépend du ministère qui a géré.
Ministère au pluriel, hein, depuis 2023.
Oui, on est d'accord.
Six gouvernements, ça ne simplifie pas la mise
en
œuvre.
Vous avez tout à fait raison de dire cela. S'il y a un retard, c'est probablement aussi dû à des changements, et j'en parle en connaissance de cause, hein, pour avoir été dans un cabinet. Voilà, ces genres de changements ne favorisent pas la continuité d'une politique publique.
On va en venir à ce qui n'a pas été mis en œuvre ou mal appliqué, mais même quand c'est appliqué, ça ne trouve pas forcément de traduction dans la réalité. On va prendre l'exemple de la mesure numéro 37, la priorisation des enquêtes de violences sexuelles sur les enfants. C'était l'objet d'une circulaire du garde des Sceaux, Gérald Darmanin. Or, l'affaire Liana montre l'insuffisante effectivité de cette mesure sur le terrain. Comment est-ce qu'on l'explique ?
Pour des raisons tout à fait légales, hein, la circulaire n'a pas un caractère impératif, singulièrement pour les magistrats du siège. Donc c'est un peu plus facile du côté des procureurs, mais encore faut-il que ce soit lu. Et comme j'ai pu le dire déjà par ailleurs, trop de priorités tuent les priorités.
C'est-à-dire que quand on envoie au juge d'instruction 3, 4, 5 priorités, les violences sexuelles, mais aussi le narcotrafic, le terrorisme, on s'y perd.
Exactement. Le procureur de la République, à un moment donné, il s'y perd. Il y a des chiffres qui sont assez interloquants. Hein. Vous avez 60 circulaires qui arrivent dans une année. Donc on peut aussi avoir cette situation.
Donc vous doutez que la lutte contre les violences sexuelles faites aux enfants soit une unique priorité ?
Oui, c'est pas l'unique priorité, puisque comme vous l'avez vu, hein, dans cette... la circulaire qui porte justement comme priorité les violences faites aux enfants, c'est jamais qu'une priorité par rapport à d'autres priorités.
Dans ce rapport, vous écrivez que 8 recommandations clés attendent une décision claire du gouvernement et donc en fait pourraient être débloquées assez simplement sur décision d'un ministère ou du Premier ministre. Sur quoi est-ce que le gouvernement peut avancer presque simplement, presque immédiatement ?
Il y a un certain nombre de décisions qui pourraient faire l'objet de décrets, hein. C'est tout à fait possible. Après, sur des questions d'arbitrage, souvent c'est des questions qui sont plus bloquante au plan société, même si des choses évoluent. Hein. Prenons par exemple l'imprescriptibilité, même si elle ne fait pas, ça a été rappelé encore tout récemment par le garde des Sceaux, elle ne fait pas consensus complètement.
L'imprescriptibilité
des crimes commis sur mineurs.
Aujourd'hui, lorsque un enfant est violé, il y a prescription 30 ans après majorité.
Après sa majorité, tout à
donc
fait. Ce qui l'amène grosso modo à 45 ans, ce qui est parfois insuffisant, notamment en matière d'inceste, où on constate que les enfants qui deviennent adultes après ne révèlent souvent qu'à la mort de leurs parents ou parce qu'eux-mêmes ont eu des enfants. Donc,
et c'est bien l'enjeu, hein, comment juger ces crimes. Aujourd'hui, seuls 3% des agresseurs en matière de violence sexuelle sont condamnés, 1% lorsqu'il s'agit d'inceste. Vous vous rappelez hein, ces chiffres dans votre rapport. C'est sur le volet judiciaire que vous appelez les gouvernements à agir. Il y a l'imprescriptibilité, il y a quoi d'autre?
Je pense qu'il y a aussi le principe de précaution qui doit absolument... Alors, la règle générale que je mettrai sur la table, moi, c'est l'écoute de l'enfant. L'enfant reste encore suspect en termes de parole. On ne croit pas l'enfant. Et donc, je pense que là, s'il y a vraiment une grosse marge de progrès à faire, c'est cela.
Mais ça paraît quand même vertigineux. Comment est-ce qu'on fait changer d'état d'esprit une société entière?
J'ai bien conscience de ce que vous dites. C'est-à-dire que là, pour le coup, c'est une question culturelle. Mais il y a aussi des techniques qui font que, je l'évoquais avec le protocole NICHT, qui peuvent faciliter cette parole. Ensuite, il ne faut pas au plus avoir une vision trop rigide de la parole. Ça peut être aussi toute la partie non-verbale. Et Dieu sait que nos enfants s'expriment aussi. Lorsque vous voyez un enfant mimer un rapport sexuel, j'imagine qu'il ne va pas le chercher dans sa mémoire. C'est qu'il l'a vécu, malheureusement.
Il y a aussi la question de ces mères qui essaient de protéger des enfants qui dénoncent des violences sexuelles de la part des pères, par exemple. Et ces mères-là se retrouvent poursuivies pour non-représentation d'enfants. En gros, elles gardent le fils, la fille avec elles pour éviter qu'il retombe entre les mains d'un père lors d'une garde partagée. Comment est-ce qu'on en est arrivé à cette aberration?
J'aurais tendance à vous dire que les mères se trouvent dans une double injonction. Première injonction qui est de dire, ce qui est donc une obligation de sécurité, hein. Non-assistance à personne en danger, c'est-à-dire qu'elles savent que le père est incestueux. Alors on prend ce schéma père-mère,
parce
on
pourrait
parfaitement l'AVC, mais parce qu'effectivement c'est le plus fréquent. Sachant que le père est incestueux, elles vont refuser de le remettre au père. Le juge néanmoins aura prononcé une décision de garde alternative par exemple. Comment on arrive à cela? C'est que, et c'est la raison pour laquelle le deuxième point que je voulais évoquer avec vous, hein, c'est l'ordonnance de sûreté, qui est un principe de précaution, c'est-à-dire que dès lors qu'il y a le moindre doute, on sécurise l'enfant. C'est-à-dire que l'enfant n'ira plus voir son père pendant un temps. Nous, on pousse pour que ce soit fait. Donc ça a été proposé par Madame Goulet, par la députée Goulet, mais aussi par le garde des Sceaux. On pousse pour que ce soit fait. Cette règle n'a d'intérêt, ou plutôt n'a d'efficacité, que si on réduit les périodes, les procédures. Parce que bien évidemment, si je vous dis pendant 6 mois, vous ne voyez pas votre enfant, ça pose quand même question. Alors, juste pour répondre à votre question très précisément, aujourd'hui on a un cadre légal qui normalement devrait permettre d'arrêter. Néanmoins, il faut que la plainte et la procédure soient exécutées jusqu'au bout. Avec l'ordonnance de sûreté, on pourrait arrêter la procédure, enfin, en tout cas sécuriser l'enfant dès lors qu'on a une suspicion.
On l'a entendu dans le récit, il y a une loi intégrale qui est proposée par des députés de différents bords politiques, qui est loi intégrale qui reprendrait en partie vos propositions.
Absolument.
Est-ce que cette loi vous conviendrait, vous? Est-ce
Alors,
qu'elle serait suffisante?
On n'a pas encore fait cet exercice, hein. J'ai commencé à y travailler. En tout cas, elle recouvre... une bonne majorité de nos recommandations. Donc elle serait tout à fait... Après, il faut s'en remettre aussi au débat et à la discussion.
Une proposition de loi n'est pas
voilà,
la loi votée
exactement.
À la fin.
Et donc, tant mieux, ce serait en tout cas pour nous, c'est quelque chose qui est... quelque chose qu'on considère comme un progrès. L'avantage qu'on y voit, c'est que du coup, ce serait globalisant. Aujourd'hui, les députés et sénateurs agissent un peu... par petites touches, ce qui fait que du coup on arrive à un millefeuille, pas toujours cohérent, ils travaillent là-dessus. Mais en revanche, là, l'avantage, c'est qu'on aurait une loi globale qui donnerait une cohérence à l'ensemble.
Il y a également les propositions, notamment des candidats à l'élection présidentielle qui approchent. Il y a notamment l'idée d'une perpétuité incompressible pour les auteurs de violences sexuelles sur des enfants. C'est ce que demande Jordan Bardella du Rassemblement National, ou la castration chimique obligatoire, demande Bruno Retailleau des Républicains. Qu'est-ce que vous dites de ces idées-là qui arrivent dans le débat public?
Je ne me prononcerai pas, même si j'ai quand même beaucoup de réserves sur la castration chimique.
Vous levez les yeux au ciel, hein. On n'a
oui.
pas de caméra.
néanmoins, je pense que bon, ça participe du débat, et tant mieux qu'il y ait débat sur ces questions. c'est pas quelque chose qu'on va nécessairement encourager.
Oui, votre rictus parle pour vous. À gauche, c'est plutôt les moyens de la justice qui sont pointés du doigt. Vous l'écrivez vous-même dans le rapport, il n'y a pas assez d'argent pour la justice.
Oui, exactement. Je sais que le président de la République s'est inscrit en faux sur la question des moyens.
10 milliards en gros par an de budget pour la justice. Les associations en demandent 20, le double.
Nous, on n'a pas les moyens de l'évaluer au niveau de la Civise. Néanmoins, je pense que force est de reconnaître qu'il y a un besoin de moyens. Et d'ailleurs, sauf erreur de ma part, tout récemment, là, je crois que c'est hier ou avant-hier, le président de la République a admis que, par ici ou là, on augmenterait les moyens de la justice. Ce qu'il faut voir, c'est que le but n'est pas de dire « je dois augmenter pour augmenter ». On est dans une situation économique effectivement très difficile. Même si l'argument de gestion me paraît un peu dérisoire par rapport à l'enjeu et à la protection de nos enfants. Mais effectivement, la justice, les crédits ont augmenté. Si vous regardez sur la loi quinquennale, grosso modo, il y a eu plus de 23% pour la justice. Pour autant, le contentieux aujourd'hui, qui est un contentieux de masse, nous avons même été, le juge Durand avait parlé de crime de masse, hein. Donc c'est quand même violent.
160 000 victimes
oui,
par an.
Oui, 160 000 victimes par an. Augmente aussi d'autant. Donc, le compte n'y est pas.
Est-ce que le contexte est favorable à faire avancer les propositions que vous défendez? On parle de la mort de la petite Liana qui pourrait intervenir comme un détonateur de décisions politiques et de faire prendre conscience qu'il faut enfin agir. Est-ce que vous y croyez?
J'aurais tendance à vouloir y croire. Maintenant, comme vous le savez, on a eu d'autres précédents. Moi, j'ai connu très près, puisque je suis enseignant à Dauphine aussi, l'affaire Philippine. Rappelez-vous, ça a créé beaucoup d'émotions et c'est tombé. Le soufflet est retombé, malheureusement. Donc moi, je pense que ce serait le meilleur hommage qu'on pourrait rendre à cette petite fille qui est morte dans des conditions atroces. Je pense que ce serait. Maintenant, c'est pas à vous que je vais l'apprendre. Une information efface l'autre. Et il faut vraiment conserver cette pression. Sinon, on oubliera et on repassera un prochain drame, étant entendu qu'on est quand même sur un terrain de mine. La situation évoquée par le garde des Sceaux, sur cette volonté de screener 70 000 dossiers, enfin 70 000 plaintes.
De passer en revue les 70 000 plaintes de violences sexuelles sur des
mineurs. Ne me paraît pas une mesure... alors, ça va générer beaucoup de travail. Mais c'est une mesure indispensable.
Merci Denis Rodfichet d'avoir répondu à mes questions pour le titre à la une.
Merci.
Merci à Jean-Baptiste Perra pour la réalisation de ce podcast, à Nel Aubeuf qui m'a aidé à le préparer, et merci à vous d'avoir écouté ce nouvel épisode du titre à la une. S'il vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous, à nous laisser une note ou un commentaire. Rendez-vous tous les jours sur les plateformes d'écoute, sur notre site internet bfmtv.com et sur notre application. À demain.